Chapitre 58. 12h22. Faisant écran de son corps afin que personne ne puisse apercevoir la combinaison, Shauna Brennan tourne la molette de son coffre-fort qui cliquette. Elle tire la porte et choisit un dossier parmi les nombreux qui s'y empilent. Elle se relève pour gagner son secrétaire et ouvre la chemise cartonnée. « Je mets un point d'honneur à tenir scrupuleusement l'état des consignes de transmission », explique-t-elle. « La disparition soudaine de notre petite Linda nous a rappelé combien c'est important. » Elle lance un regard de biais à Chris et invite ses visiteurs à se rapprocher. « Nous sommes bien d'accord que seules les circonstances exceptionnelles que vous affrontez justifient cette entorse à mon obligation de secret. Que les choses soient entendues sans ambiguïté. Votre accès à ces données n'a pas d'autre but que de tenter de sauver votre enfant. » Janet approuve sans hésiter. Murray souscrit d'un bref signe de tête. Installée à l'angle du meuble anglais sur lequel elle dispose ses tableaux récapitulatifs, un magnifique chat persan observe sa maîtresse. Couché sur son coussin, il paraît habitué à la regarder travailler. Shauna Brennan respire avec difficulté, sans doute mal à l'aise d'avoir à exhiber des renseignements qu'elle ne devrait montrer à personne. Il est probable aussi que partager ce qu'elle doit considérer comme son privilège ne lui plaît pas davantage. Les Murray et Chris se penchent sur les documents. C'est une autre réalité de la baie qui émerge. Malgré leur brouille, les Ferguson se lèguent leur propriété entre eux. Face à l'adversité, les liens du sang prévalent. Si elle n'était pas sortie vivante de la baie, Jill Masterson aurait voulu que son bien aille à Thornton, ou à défaut à Emma, et Kenny Turnbull, les gérants de la taverne. Neil Hanford, lui, mentionne un avocat à contacter. Chris est le seul à savoir que c'est pour ne pas divulguer directement l'existence de sa fille. Gillian Day confie ses arpents de lande aux bons soins de Benton, qui lègue son atelier de réparation marine à Kirsty Scottson. Elle-même transmet sa terre à sa fille, en précisant que si elle la refuse, Shauna Brennan récupérera le tout. Les diverses clauses redessinent la cartographie des relations au sein de la baie, car à ce stade, il n'est plus question de faux-semblants ou de grandes déclarations creuses, mais de choix très concrets, portant à conséquence. Choisir à qui on laisse son bien constitue surtout à Kilthorpe un geste lourd de signification. Le choix sonne comme un vote, et son expression trouve une résonance par-delà la mort de celle ou de celui qui l'exprime. Shauna Brennan pointe la ligne correspondant à Rognard. Vous n'avez pas encore indiqué votre choix. Je ne compte pas mourir. Vous ne devriez pas plaisanter sur ce sujet, monsieur. Personne n'est plus fort que son destin. Murray tique sur une dimension et gronde. Reed m'avait juré qu'il me lèguerait sa parcelle si je lui attribuais la mienne. J'ai tenu parole, pas lui. Je t'avais averti de t'en méfier, siffle Janet, mais tu ne m'écoutes jamais. Chris les ramène sur le document. Restons concentrés, s'il vous plaît. À l'évidence, même si le jeu des transmissions nous éclaire sur les alliances en réservant son lot de petites trahisons, aucun bénéficiaire majoritaire ne se dégage. Les transferts sont assez équilibrés et n'avantagent personne en particulier. Alors pourquoi nous obliger à changer notre clause ? Demande Janet, déroutée. Je l'ignore. On le saura peut-être lorsque les ravisseurs vous auront dit en faveur de qui vous devez la modifier. Chris sourit à leur hôtesse. Merci de nous avoir ouvert vos archives, Mrs. Brennan. Personne n'en saura rien et c'était une nécessité. Puis il se ravise. Vous êtes l'archiviste officiel du Conseil, n'est-ce pas ?
Tout à fait,
élu à l'unanimité.
Félicitations. Dites-moi, en votre qualité de mémoire vivante, la visite de dignitaires ou de personnalités qui seraient venues s'aventurer à Kilthorpe évoque-t-elle quoi que ce soit pour vous ?
Elle glousse, manifestement satisfaite de pouvoir enfin briller.
« C'est une facette de notre passé que l'on oublie trop souvent », déclare-t-elle d'un ton docte. « Et elle est pourtant prestigieuse. Ils sont en effet nombreux, surtout au XVIIIe et au XIXe siècle. Thomas Jefferson, le président américain, était lui-même ici en 1762. On a eu un émissaire de Napoléon, avant que l'empereur ne vienne à son tour, en personne. Simon Bolivar a également fait le déplacement, et on peut aussi mentionner le plus proche conseiller du dernier empereur du Japon. La liste est longue et étonnante.
Savez-vous pourquoi ces sommités ont fait le déplacement ?
Les rumeurs vont bon train, et de vous à moi, je pense que la liste officielle de ces illustres voyageurs est sujette à caution. Certains dont on parle n'ont sans doute jamais mis les pieds ici, alors que d'autres dont on tait le nom ont réellement fait le déplacement. En resterait-il des témoignages dignes de foi ? Aucun, cher monsieur. Comme souvent avec ce qui concerne la baie, nous évoluons à la frontière entre la légende et l'histoire. Cependant, nous avons tout de même gardé quelques souvenirs. Est-il possible de les étudier ? Où sont-ils ? Bien vivants, autour de nous. Depuis des siècles, nous avons pour habitude de donner à nos animaux de compagnie le nom de ces prestigieux touristes. Chris en prend tout à coup conscience. Churchill, Napoléon. Shona Brennan hoche la tête et montre son félin. Et je vous présente Marx, Karl, pour les intimes. Celui-là a un pelage propre et, contrairement à l'autre, possède un instinct de territoire particulièrement aiguisé.